Amanda, qui était la stagiaire master qui a travaillé sur ce projet, n'est pas présente. Donc je vais faire cette présentation à sa place. L'idée derrière cette présentation, c'est que on avait trouvé dans un projet précédent qu'il y avait un effet plutôt positif des fortes populations d'animaux sur les populations d'oiseaux du sous-bois. Alors que généralement, l'idée qui était véhiculée, c'est que le sanglier pouvait prédater en fait, les nids des oiseaux qui nichaient au sol. Et donc on a profité du domaine de Chambord où les densités de sangliers sont parmi les plus élevées qu'on va pouvoir trouver sur le territoire français pour essayer de tester cette idée sur la prédation des sangliers sur les nids d'oiseaux. But the slides are in English. So, voilà. Donc ça c'est l'évolution des plans de chasse pour le sanglier et le cerf depuis les années 73, donc on voit une augmentation très forte. Les ongulés peuvent avoir différents types d'effets sur différents types d'effets en fait sur le succès de nidification des oiseaux. Il peut y avoir des effets directs donc par la prédation, ça a déjà été observé, mais il peut y avoir aussi des effets indirects, notamment par le fait que les endroits qui sont utilisés par les animaux et les grands ongulés peuvent attirer en fait d'autres prédateurs des nids qui sont connus, comme les mustélidés ou certains oiseaux. Il y a un autre impact, effet indirect en fait, de la présence des ongulés sauvages sur la prédation des nids, ça serait un effet plutôt sur la qualité de l'habitat de nidification des oiseaux, en modifiant en fait, la végétation et la capacité en fait, des oiseaux à cacher leur nid au sein de la végétation, que ce soit au niveau du sol ou alors dans la strate arbustive basse. Donc la question qu'on se posait, c'était de savoir quels pouvaient être les effets de la densité des ongulés sur le succès en fait, de l'identification des oiseaux. On avait plusieurs hypothèses. On se demandait si en fait, le fait que les nids, il y avait un échec au niveau des nichés, c'était lié à l'abondance des ongulés sauvages. Deuxième hypothèse, c'était est-ce qu'il y avait un effet direct des ongulés sur l'échec de l'identification. Est-ce que c'était plutôt le fait qu'ils attiraient les autres prédateurs et donc c'était un effet donc, indirect de ces ongulés? Ou alors si c'était l'hypothèse liée à la qualité de l'habitat sur l'abondance en fait, du couvert de végétation. Donc on a travaillé sur deux sites, à Chambord et puis au sein d'un dispositif expérimental qui s'appelle Optimix en forêt d'Orléans, à peu près une vingtaine de kilomètres de notre organisme, dans le sud-est du Loiret. Et donc on a utilisé des dispositifs enclos-exclos, enclos qui sont utilisés à Chambord pour pouvoir régénérer en fait, la végétation en présence des fortes densités d'ongulés sauvages. Et donc on avait des systèmes appareillés, alors donc des exclos où les animaux ne sont pas présents, qui s'appellent fence, et puis des zones où les animaux étaient présents. On a utilisé des nids et des pièges photographiques, donc 598 nids et puis 77 pièges photographiques pour observer en fait qui venaient prédater les nids composés, les nids artificiels avec les autres cailles composées soit au niveau du sol, soit dans la strate arbustive basse. Donc on avait testé aussi, moi je ne vais pas détailler ces résultats-là, mais il y avait deux types de nids, des nids fermés comme ceux que peuvent créer réaliser les troglodytes par exemple, ou alors des nids ouverts. Et on les a posés soit dans la strate arbustive basse, soit au niveau du sol. Et après on a utilisé les pièges photographiques qu'on a installés sur des arbres entourant en fait, nos nids, pour essayer d'identifier quel était le prédateur qui venait effectivement prédater en fait, les œufs qui étaient dans les nids. Donc on a mesuré différentes variables de végétation, et puis aussi la proportion de sol qui était perturbée par le sanglier. Et donc première chose, quand on compare en fait, les densités ou la fréquentation, le niveau de fréquentation des sites à partir des pièges photographiques, pour les différents prédateurs potentiels, on avait effectivement une densité de sangliers qui était fortement beaucoup plus élevée sur les sites donc, qui était accessible aux animaux, là. Enfin, qui n'était pas, enclos. Et il n'y avait pas de différence, par exemple, pour un petit prédateur comme la martre. Et voilà. Et donc c'était aussi marqué pour les autres prédateurs, mais c'était moins élevé que pour le sanglier. Ce qu'on a montré comme résultat, c'est qu'il y avait effectivement, comme sur l'hypothèse numéro 2, qu'il y avait un lien en fait, entre l'abondance des ongulés, donc plus il y avait plus d'ongulés, plus il y avait d'autres prédateurs des nids, une relation positive. Par contre, ce qu'on a pu montrer, c'est qu'il n'y avait pas de lien significatif entre le taux de prédation des nids et soit l'abondance des ongulés, donc sur l'axe des X, ou alors l'abondance des autres prédateurs. Donc pas de lien direct en fait, entre le taux de prédation et la présence des potentiels prédateurs. Ce qu'on a pu montrer qui était significatif, par contre, c'était que le taux de prédation qui était observé, il était lié au recouvrement de la strate arbustive, c'est-à-dire que le taux de prédation était d'autant plus fort que la strate arbustive était moins développée. Donc les prédateurs qui ont été observés, effectivement capturés par les pièges photographiques, c'était plutôt des oiseaux, donc le geai, le pic qui pêche et une martre, je pense. Donc sur l'ensemble des nids prédatés, il y en a eu 188. Avec les pièges photographiques, on a pu identifier clairement, donc ça c'est un peu une des limites du travail quand même, que 5 cas d'identification claire, comme celle que vous pouvez observer sur ces photos, de prédation par les animaux. Et puis il y a eu 21 cas où on avait une possible identification, c'est-à-dire qu'on n'avait pas l'œuf dans le museau ou dans le bec de l'oiseau, mais en fait l'animal qui était près du nid et le nid avait été prédaté. Donc voilà, donc on supposait que c'était bien un cas de prédation. Donc là encore une corvée. Ce qu'on peut observer en tant que prédateur, c'est que l'idée en fait, qui est véhiculée comme quoi le sanglier en fait, va prédater les nids des oiseaux qui nichent au sol, elle est un peu mise à mal par exemple par cette photo. On voit que le nid ici est présent avec les œufs à l'intérieur, le sanglier passe juste à côté. Et en fait, il s'avère que ce nid-là ne va pas être prédaté. Donc, il n'y a pas une recherche systématique en fait, de ces prédateurs. Enfin, ce n'est même pas opportuniste, ils ne vont même pas aller prédater ce nid-là. Il y en a d'autres photos qui mettent en évidence en fait, de la non-prédation alors que le sanglier passait juste à côté. Donc, la première hypothèse qui était l'échec de la nidification est lié à l'abondance des ongulés, elle était réelle, c'est-à-dire qu'une augmentation en fait, de la prédation dans les endroits où il y avait plus d'ongulés. Par contre, elle n'est pas du tout proportionnelle en fait, à la différence de densité qu'il peut y avoir entre l'intérieur et l'extérieur. Alors, il n'y en a pas zéro vraiment, parce qu'il y a des enclos en fait, où il y avait quand même des marques de sangliers, il y avait quand même des observations. Donc c'est pour ça qu'en fait, on peut multiplier quelque chose pour obtenir. Et pour les petits prédateurs, en fait, il y avait une différence aussi, mais qui est très marquée. Donc en fait, ce qu'on ressort ici, c'est qu'il y a un effet vraiment limité sur la prédation des nids par les ongulés sauvages, direct en tout cas. L'hypothèse 3, qui était celle de l'attraction des autres prédateurs par les ongulés sauvages, qui peut avoir un effet du coup sur l'échec des nidifications. Donc on a effectivement mis en évidence qu'il y avait un lien positif entre la présence des ongulés sauvages et des autres prédateurs. Par contre, il n'y avait pas d'effet direct en fait, de la prédation des ongulés sauvages ni des autres prédateurs qui étaient présents sur le site. Donc ici, ce qu'on a trouvé, c'est qu'il y avait un lien entre la prédation. Donc moins il y avait de végétation autour des nids, plus les nids étaient prédatés. Par contre, on n'a pas pu mettre en évidence, dans le cadre de cette expérimentation, le lien direct en fait, entre la présence des ongulés sauvages et la réduction de la végétation autour des nids. Mais ça reste quand même l'hypothèse la plus probable pour expliquer les résultats qu'on a observés. Donc, voilà, on questionne toujours l'effet de la prédation par ces ongulés sauvages directs sur la prédation. Il y a un effet a priori positif d'attraction des autres prédateurs. Par contre, il n'y a pas de lien de ce type-là qui va vers la prédation des nids. Là, c'est ce que je disais, on n'a pas mesuré en fait, l'effet sur la végétation autour des nids. Par contre, ce qu'on a montré, c'est qu'il y avait bien un effet l'abondance de la strate arbustive autour des nids sur l'échec de prédation. Donc, il y a un effet en fait, plutôt des ongulés sauvages sur la qualité de l'habitat pour les oiseaux pour nidifier. Merci.